gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien.
Bonsoir amis auditeurs, amis auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. Et à partir de 22h, c'est le retour au direct avec La Causerie ce soir. Dans les studios, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Eh ben, lâche pas le micro.
Je le réajuste déjà.
C'est toi qui vas le tenir. Et ben Fab, ce soir on repart à Mayotte.
Bah ouais, on va refaire un petit tour à Mayotte. Donc pour parler du fameux Mayotte debout, hein. Vous savez, c'est le plan qui a été annoncé il y a pas longtemps par le Premier ministre. Et moi je l'ai plutôt appelé une liste de courses qu'un plan. Alors bon, après le passage quand même du premier sinistre hein, sur l'île, on s'attendait à un discours autour de la catastrophe qui a eu lieu, de ce qu'il reste à faire, tout ça. Mais en fait non. En même temps, le mépris affiché par Bayrou et ses ministres qui ont fait ce voyage, alors je rappelle, voyage de moins de 24 heures hein, quand même, oui. Parce qu'a priori, il faut croire qu'en moins de 24 heures, on règle tous les problèmes d'une zone sinistrée. Hein. Oui, mais c'était juste avant les fêtes, fallait qu'ils rentrent manger de la dinde. C'est un énième moment bien dégueulasse hein, de la République. Borne, on a tous vu les images qui tournent le dos à des enseignants qui lui expliquent la situation en disant juste « ok ». Voilà,
Pas si tout le monde les a vus, mais si vous
les avez pas vus,
c'est vraiment de les voir.
Il y a l'échange. Alors, elle a dit que c'était pas vrai, que l'échange avait été coupé. Donc, du coup, le journaliste qui a filmé, qui est un journaliste de l'AFP, a publié l'ensemble de l'échange pour dire j'en ai un peu marre qu'on me fasse dire des choses qui sont pas vraies. Et effectivement, en fait, ils sont en train de lui expliquer que les gens qui sont sinistrés, ils ont 5 km de marche à faire en plein cagnard pour venir chercher des vivres et de l'eau. Et que donc c'est pas possible et qu'il fallait faire autrement. Et elle termine en levant les épaules, en se retournant en disant ok, voilà.
Oui, elle trace sa route.
Elle trace sa route, bon voilà. On l'a aussi vu prendre un fou rire hein, pendant que François Bayrou parlait de la catastrophe hein, quand même. Alors elle explique qu'on ne peut pas contrôler un fou rire. Peut-être, mais on peut aussi quand même faire attention et se cacher des caméras quand on en prend un. Ça évite que les gens vous voient rire pendant qu'on parle de mort quand même. On voit aussi Valls hein, qui parle d'immigration des habitants mahorais lui demandent quand est-ce que la reconstruction va commencer. Et je vous jure, là aussi, vous pouvez trouver les images. Valls lui répond oui, on va tout faire contre les bangas et contre l'immigration illégale. Alors on va rappeler à M. Valls qu'il est ministre des Outre-mer et pas ministre de l'Intérieur.
Mais en fait le problème c'est que là on a quand même sur 3 ou 4 postes, il y a quand même 3 ministres ou 4 ministres de l'Intérieur. Si on prend Valls,
oui, ouais.
Darmanin, Retailleau, il y en a quand même 3 qui finalement, quel que soit le poste qu'ils veulent, c'est vraiment l'Intérieur qui les fait kiffer. Quoi.
Et en fait on voit d'ailleurs au visage des gens qui sont en face de Manuel Valls, l'incompréhension dans leur regard et ils ne comprennent pas du tout ce que la réponse vient faire alors que leur demande n'a rien à voir, et vraiment qu'eux demandaient quand est-ce qu'on va avoir les matériaux pour faire la reconstruction. Parce que je vous rappelle quand même qu'à Mayotte, pour pouvoir reconstruire, il va falloir importer des matériaux. Bayrou aussi qui semble découvrir hein, qu'on peut être en colère quand on a tout perdu, vu qu'il reproche aux habitants leur véhémence. Alors, je sais pas, moi j'ai vu beaucoup d'images là-bas hein, de sa visite, parce que avant de préparer le sujet, j'ai regardé un peu un maximum de choses et écouté aussi à la radio ce qui a pu être fait. Et je n'ai vraiment pas vu de gens qui l'ont insulté ou quoi que ce soit. Certes, les gens étaient en colère, mais il y a de quoi, et l'ont un petit peu renvoyé dans les cordes en disant que l'État ne faisait pas ce qu'il avait à faire, mais ils sont restés pour la plupart, enfin, de ce qu'on a pu entendre et voir, à mes yeux, extrêmement calme par rapport à la situation. Parce que je pense qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il aurait peut-être été brûlé sur la place publique. Donc, faut quand même qu'ils se rendent compte que les gens, ils sont plutôt calmes à Mayotte. Voilà. Donc, on a vraiment assisté quand même à Tintin au Congo en direct, hein, c'est-à-dire Tintin découvre les territoires. Voilà, c'est assez fou. Donc, on s'attendait à avoir une tente faite pour Milou pendant que le guide, lui, dormait dehors. Ce qui est dans Tintin au Congo. Mais voilà, donc vraiment, c'était juste hallucinant. Donc, arrive quand même le moment de présenter ce qui sera fait pour Mayotte. Hein. Alors, juste quand même pour votre information, pour ceux qui n'ont pas suivi, le Premier ministre a teasé le truc de son départ à Paris jusqu'à l'arrivée à Mayotte pour dire qu'il avait un plan hallucinant à annoncer. Voilà. Et alors, donc, tout le monde attendait quand même un discours, un moment de compassion. C'est un moment quand même où un peu long, quoi. Bon, bah, c'est expédié en deux phrases avec le fameux fou rire de Borne derrière. On est face à un mec qui fait une sorte de liste de courses. Et les Mahorais et Mahoraises se sont retrouvés en face de lui. Et donc, on a quelqu'un qui fait vraiment, qui énumère un plan, point par point, sans aucune forme d'humanité, d'une technique pure, très militaire dans l'âme et très administration des colonies quand même. Hein. Faut sentir quand même le côté un peu... voilà. Bon, faut dire que Bayrou, il a dit un truc qu'on avait quand même jamais entendu. Hein. Des décisions concrètes et précises, des engagements concrets et précis. Bah, c'est sa phrase. Hein. Voilà. Voilà, c'est son plan. Bon, alors oui, on entend ça à chaque fois. Hein. Faut pas déconner. Et c'est vrai, hein, chaque fois que quelque chose est annoncé en France, c'est toujours concret et précis, et des engagements concrets et précis. Alors, on va lister un peu ce qui ne sera qu'un plan en direction des plus riches, hein, on va le dire dès le départ, contre les plus pauvres, et qui va surtout servir à transformer Mayotte en île Afrique et en île touristique, parce que c'est un petit peu ce qui est derrière tout ça, et on le sent quand même, et notamment les habitants de Mayotte qui sont, on va dire, plus à gauche ou plus dans le social, se sont dit, il y a quand même quelque chose là qui sonne un petit peu comme votre île va devenir un joli Club Med. Donc, alors, urgence, vous avez dit urgence, parce que, oui, quand même, il y a une vraie urgence. Hein. Alors, le Premier ministre, il a d'abord annoncé que l'électricité serait rétablie au plus vite, et que dès fin janvier, chaque foyer, alors, faut comprendre chaque foyer qui était abonné, hein, et identifié. Donc, ça veut dire qu'à Mayotte, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas reliés, hein, qui étaient dans des bidonvilles, ou même qui étaient dans des appartements, mais qui avaient ce qu'on appelait un raccordement de fait, c'est-à-dire, vous savez, quand le courant n'est pas coupé, et que vous arrivez, et puis que vous signalez pas que vous êtes là, mais que vous laissez le courant, et ben, tous ces gens, en fait, paf, ils vont être privés d'électricité. Donc, il dit, tout le monde aura le courant. Donc, tout le monde n'est pas vraiment. Il salue d'ailleurs le travail de Électricité de Mayotte pour cela. Oublions au passage quand même que Électricité de Mayotte... Alors, Électricité de Mayotte, c'est une filiale d'EDF. Hein. Oublions quand même au passage que Électricité de Mayotte n'a jamais mis en place, hein, les réseaux prévus pour tenir face aux cyclones, c'est-à-dire les fameux réseaux enterrés, alors qu'elle aurait dû le faire depuis 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, en fait, que ça avait été décidé. Et que des subventions ont aussi été versées à Électricité de Mayotte pour ça, et que ça n'a pas été fait. Mais il n'a pas eu le temps de le relever, ça. A priori, voilà. Pour l'eau, l'annonce, c'est que dès aujourd'hui, hein, donc dès demain, en fait, le 6 janvier, mais théoriquement ce soir minuit, on serait à 38 000 mètres cubes d'eau potable par jour, produit et distribué. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas atteint, j'ai vérifié. Hein, sauf si vraiment il y a un miracle cette nuit, et comme je ne crois pas au miracle...
C'est
un peu beau problème. Là, on serait plutôt autour de 20 000 mètres cubes, là, à l'heure actuelle, donc c'est quand même à peu près la moitié. L'annonce suivante, hein, c'est qu'au 30 juin 2025, il serait monté ce volume à 40 000 mètres cubes d'eau. Et dans la bouche du Premier ministre, c'est très bien et c'est au-delà de ce qui existait. Alors, on va juste, c'est oublié un peu vite, qu'avant la catastrophe, hein, le besoin en eau était estimé à 46 000 mètres cubes par jour. Avant la catastrophe. Donc, il nous dit qu'on va atteindre 40 000 et que ce sera très bien et qu'on s'arrêtera là. Voilà. Et donc, Bayrou, il annonce tranquillement qu'il ne sera pas fait d'efforts pour aller au-delà des 40 000 mètres cubes. Donc, on va pas couvrir les besoins réels. Voilà. Alors, je vous rappelle, hein, parce que si vous ne le savez pas, avant la catastrophe, à Mayotte, l'eau était coupée 2 jours par semaine en moyenne, voire parfois 3 jours par semaine au robinet. Et quand elle était ouverte, elle était parfois ouverte que 8 heures. C'est-à-dire, elle était ouverte 4 heures le matin, 4 heures le soir. Enfin, et vraiment, on passe raté. Voilà. Et des fois, elle était même ouverte par tranches de 2 heures, ce qui était, les habitants disaient, c'était totalement aberrant, parce que du coup, c'était des tranches, quartier par quartier. Enfin, il fallait être quasiment polytechnicien pour essayer de comprendre quel robinet allait couler. Donc, c'est, voilà. Mais donc, il y a beaucoup de Maoris qui disent, en gros, il est en train de nous dire qu'on va vivre comme on vivait avant le cyclone. C'est-à-dire, pas bien. Voilà. Il a aussi également annoncé la construction d'une deuxième usine de dessalement et l'accélération de la création d'une troisième retenue collinaire. Bon, alors, il a juste oublié de préciser que ces deux projets sont prévus de longue date. Hein, ça fait plus de 15 ans que ça devrait être fait aussi. Voilà. Ils n'ont jamais été financés. Personne n'a voulu mettre l'argent nécessaire. Et on comprend mieux hein, pourquoi il n'a du coup pas donné de date de réalisation. Voilà, il a dit ça sera fait. Un jour. Voilà.
Et pourquoi une deuxième
Dessalinisation? Parce qu'en fait, la première permet aujourd'hui de dessaler 6000 m3 d'eau par jour. Et que pour augmenter, il faudrait une deuxième pour arriver à 12000 m3 d'eau par jour. Parce qu'en fait, les usines de dessalinisation, c'est un volume maximal. Elles peuvent pas être énormes, en fait. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu des reportages sur l'Arabie Saoudite, qu'il y en a plusieurs le long des côtes alignées. Parce qu'en fait, quand vous dessalez, il faut de toute façon faire quelque chose du sel, et donc du coup vous pouvez pas dessaler des volumes excessifs, donc il y a un moment où ça s'arrête, vous arrivez au top, et il faut en construire une autre. Et en fait, cette deuxième usine de dessalinisation, ça fait 15 ans qu'elle est attendue, et 15 ans qu'elle est pas financée, et que personne ne veut financer. Donc okay. Voilà. Alors, il y a aussi eu un truc hein, assez qui a étonné tout le monde, c'est Elisabeth Borne, qui est quand même ministre de l'Éducation nationale, qui a dit, allez, maintenant, on retourne à l'école. Oui, elle a dit ça. Alors, il faut quand même savoir que la moitié des établissements scolaires, hein, donc c'est-à-dire 220 écoles, 20 collèges et 10 lycées, ne sont pas en état de recevoir des enfants ou des ados. Et qu'avant Chido, hein, donc l'ouragan, le cyclone, pardon, il manquait déjà 1200 salles de classe pour répondre aux besoins. Bon, voilà, on est quand même sur des chiffres assez énormes. Hein, et donc Borne, elle a fait savoir hein, que pour elle, la rentrée doit avoir lieu sur l'île de Mayotte dès le 13 janvier. C'est-à-dire dans
15 jours,
8 jours.
Ouais, une semaine,
ouais. Voilà. Alors, tout le monde sait que c'est totalement irréaliste. Hein, voilà. Il ne faut pas oublier que pas mal de profs ont été rapatriés, donc ils ne sont plus sur l'île. Ils y ont souvent plus de logements, ou du moins des logements qui ont été détruits, ou partiellement détruits, ou abîmés. Donc, ils ne peuvent pas revenir pour l'instant. Vous voyez, c'est un peu le truc chat qui se mord la queue, quoi. Autre point, certains de ces établissements, aujourd'hui, servent d'abri aux sinistrés. Et notamment des femmes et des enfants, qui sont pour la plupart mis à l'abri dans les établissements scolaires, depuis le 13 décembre. Donc, sous la pression des élus, hein, François Bayrou a évoqué leur évacuation prochaine. Alors, je précise que la pression des élus, c'est surtout les élus de droite. Hein. Le maire de Mamoudzou, il a d'ailleurs annoncé que le 31 janvier, il ferait évacuer tous les établissements scolaires s'ils étaient encore occupés. Voilà. Mais les bénévoles qui s'occupent de ces sites, ils s'interrogent. Ok, mais on va les mettre où, ces gens, en fait ? Parce que c'est quand même des gens, on va pas les laisser dehors, vous voyez, c'est un petit peu embêtant. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à un point très précis, hein, pour l'État et donc pour Bayrou. Les 200 000 sans-papiers de l'île n'existent plus ou n'existent pas. Ils devraient donc disparaître comme par magie. Et comme, à tort, les autorités pensent que les sinistrés sont uniquement des sans-papiers, on fait tout pour que les sinistrés soient les plus emmerdés possibles. C'est ça l'idée qui est derrière. J'y reviendrai, d'ailleurs, dans la chronique. Alors, Mayotte, ça a aussi été l'occasion pour le gouvernement français de faire un pas vers Donald Trump. Alors là, vous allez me dire, mais quel est le lien entre Mayotte et Donald Trump ? Attendez, je vous l'explique. Donc, alors, autre annonce hein, qui quand même fait frémir, quand même, vu son cynisme. Le désespoir des Mahorais va donc permettre de faire un pas vers Trump, comme je disais, via Elon Musk. Alors, je m'explique. Alors que l'Europe vient de se doter de sa corde de satellites de communication d'urgence, hein, je vous rappelle, elle a été lancée il y a plus de 2 mois, donc a priori, elle fonctionne. La France, via son Premier ministre, fait le choix, assez étonnant, de faire assurer les communications d'urgence par Starlink, la société privée d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'utiliser un système communautaire européen, qui est un partenariat public-privé, alors c'est pas idéal, mais c'est déjà un peu mieux qu'une boîte 100% privée, et ben en fait, on va demander à Elon Musk, qui est un multimilliardaire privé, d'assurer les communications d'urgence à Mayotte. Et il y a déjà des journalistes qui ont fait remarquer qu'on allait payer le prix fort, parce que Elon Musk, il a bien senti le truc venir, il a dit, vous avez besoin de 250 points relais, vous inquiétez pas, je vais vous les fournir, mais à mon prix. Donc voilà. Alors oui, hein, c'est juste du cynisme et juste un gage de bonne volonté en fait envers l'administration proto-fasciste de Trump, hein, par un premier ministre qui ne doit sa survie qu'au Rassemblement national. Donc difficile d'être surpris hein, de ça, mais c'est quand même une belle preuve. C'est-à-dire que là, on a carrément la preuve factuelle que sur le dos des Maorais, encore une fois, parce que c'est quand même extrêmement choquant, parce qu'il y a quand même se servir d'une catastrophe, comme le fait souvent, on parlait d'une théorie du choc à une époque, pour avancer...
Stratégie
du choc, pardon. Oui, stratégie du choc, pas
oui,
la théorie.
Naomi
Klein. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, il y a ça, on profite du moment pour, hop, on va en profiter là. Alors, juste, je fais une parenthèse. La société qui s'occupe des communications à Mayotte, qui est une filiale de France Télécom, parlant de Orange, et une autre qui est une filiale de Free, elle avait pas fait ce qu'elle devait faire. C'est-à-dire qu'en fait, en théorie, elle devait, depuis 15 ans, elle aussi, enterrer toutes les lignes pour éviter qu'en cas de, ça soit coupé. Bon, elle l'a pas fait parce que ça coûtait cher, et donc, du coup, maintenant, elle dit, je voudrais bien, je vais tout remettre en ordre, mais il me faudra un an. Voilà. Donc, c'est pas mal hein, quand même quand on y réfléchit. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des syndicalistes de ces deux sociétés qui ont fait remarquer qu'en fait ils pouvaient le faire beaucoup plus vite, sauf qu'ils n'ont ni l'ordre, ni l'électricité nécessaire, ni surtout l'ordre. Parce que comme ils l'ont dit deux fois exprès, pour dire en fait on leur dit de ne pas bouger. Donc ils pourraient déjà commencer à réparer. Mais c'est une sorte de chantage qui se met en place hein, pour récupérer de la thune.
Et Starlink, juste dans mes souvenirs, il avait apporté soutien
à l'Ukraine
un temps, et puis après
il les a retirés. Quand il est redevenu pote avec Poutine.
Ouais.
Puis là, il leur a redonné, mais contre argent sonnant et trébuchant.
Ah bah oui.
Ouais, parce qu'Elon Musk, c'est un mec bien.
Ah bah, c'est un mec d'extrême droite, mais capitalo, quoi. Donc, il y a son business qui doit tenir, et ouais, c'est beau.
Donc là, on voit quand même, là aussi, cette annonce, elle est complètement à côté du vélo, quoi. Enfin, clairement, quoi. Alors, côté santé, il y a une annonce qui a de quoi aussi surprendre, qui a été faite. La mobilisation de la réserve sanitaire de Santé publique France et la mise en place de mesures visant à faire du territoire un lieu plus attractif. Alors, il y a un petit souci. Hein. Aucun détail n'a été donné sur le comment. C'est-à-dire comment on rend le territoire plus attractif. Voilà. Alors, Mayotte manque cruellement de personnel médical. Hein, ça, c'est pas une nouveauté. C'était déjà le cas avant le cyclone. C'est encore plus le cas après, parce qu'une partie du personnel a été rapatrié. Donc, forcément. Alors, je précise d'ailleurs qu'il y a des médecins et des infirmiers qui ont signé une tribune pour dire qu'il était totalement dégueulasse qu'on les ait obligés à partir. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils voulaient rester et on leur a dit non, vous n'avez pas le choix parce que vous faites partie de la fameuse réserve administrative de santé publique. Donc, c'est quand même juste surréaliste.
C'est vrai que leur place n'était pas du tout sur un lieu de.
Ils disent c'est comme si sur place on servait à rien, quoi. Voilà. Donc, quoi.
Qui plus est là après une catastrophe.
C'est fou. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, depuis des années, les responsables du centre hospitalier de Mayotte tentent de faire venir, selon les besoins, venir le volume nécessaire selon les besoins de personnel et multiplier les primes et avantages qui se rapprochent de ce qui est proposé finalement aux expatriés. Donc, on ne voit pas trop ce qu'ils peuvent mettre en plus. Vu que jusque-là, ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est-à-dire, par doubler les salaires, tripler les salaires, il y a un moment, voilà, quoi. Après un cyclone dévastateur, donc, du coup, Bayrou, il nous dit qu'on va y arriver. On ne sait pas comment, hein, mais voilà. Encore une fois, hein, comme le soulignaient des collectifs pour la santé, c'est surtout de formation sur place dont l'île a le plus besoin avant tout. Pas un mot, quoi. Parce que il y a quand même des gens qui ont fait une remarque assez juste hein, dans ces collectifs qui disent pourquoi est-ce qu'on fait pas plutôt venir des formateurs et qu'on prend les gens qui seraient motivés à devenir être soignants, infirmiers, voilà, et on les forme parce que finalement ils sont là les gens hein, donc voilà. Et non, on envisage encore une fois de faire venir de métropole. Mmh. Donc c'est toujours un peu la même chose quoi. Derrière ce plan, il y a quand même aussi on le voit hein, le vide et le racisme qui se dessinent énormément. Il y a quand même... Clara, elle respire dans son micro, tranquillou.
Oui, je respire.
Ça l'a énervé.
On l'entend du coup.
Alors, il y a bien quelques annonces en plus, mais elles sont pas plus détaillées que ça. Alors, donc, je vais pas m'y attarder au-delà, quoi. Je vous laisse aller chercher, mais en gros, il y a des annonces du genre « on va rétablir les routes ». Voilà. Non, mais alors, sachant qu'il y a eu des glissements de terrain et tout, et donc il y a des gens qui ont dit « oui, mais vous allez faire quoi ?»« Ah ben, on va rétablir les routes ». Voilà, y a ni plan, ni camp, ni moyen.
Mais déjà, mais faire du rétablissement des routes, une annonce, t'as envie de dire, déjà,
c'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses,
oui,
en fait.
C'est ça. Donc, bon. Par contre, on a quand même pu noter que la gestion raciste et d'exclusion, elle a très vite été mise en place, elle. Hein. Alors, je rappelle qu'il y a plusieurs témoignages qui disent que sur des lieux de distribution, on a demandé les papiers d'identité aux personnes. Et alors, le gouvernement dit non, c'est pas vrai. Sauf qu'il y a même des policiers qui ont dit que c'était vrai parce qu'ils l'avaient fait. Donc, vous voyez, durant un moment. Alors, sous anonymat, hein, je précise. De la même façon, les gens qui étaient dans les bangas, donc dans les bidonvilles, avaient peur d'emmener leurs enfants ou d'aller, eux, se faire soigner, de peur d'être expulsés ou de peur d'être repérés. Donc, on voit bien que la gestion raciste, elle est déjà là, déjà au départ, et qu'elle a été amplifiée par la catastrophe. Et donc, voilà. Et Beyrouth n'est pas arrivé pour dire ça va aller mieux. Je tiens à rappeler, juste dire qu'il y a un hôpital de campagne qui a été monté, et le militaire qui en est responsable a dit, dans les médias, tout le monde sera soigné ici sans qu'on ne demande rien. Et il a été repris au vol par Retailleau qui a dit « Ah ben ça, c'est pas sûr ». Vous voyez, donc, alors que je rappelle que la fonction première d'un hôpital de campagne, c'est de soigner tout le monde. Hein.
Ah, c'est pas de faire un contrôle de papier.
C'est pas de faire un contrôle
des
papiers.
C'est pas une succursale des keufs.
Donc on voit quand même bien cette espèce de relent raciste qu'il y a derrière cette gestion-là. Ah, oui.
C'est l'État qui réaffirme. En fait, ils vont saisir cette opportunité-là. C'est terrible à dire, hein, quand on parle d'opportunité. Oui. Ça rejoint ce que tu disais sur la stratégie. C'est pas la stratégie. La stratégie du choc. En fait, c'est derrière, les États souvent utilisent ça pour se réaffirmer, pour faire entrer des choses qu'on aurait pu dire avant, non, etc. Et en fait, je trouve que ça y ressemble beaucoup, en fait, cette notion de réaffirmation de, même si ils viennent se faire soigner, les personnes qui n'ont pas les papiers se feront pas soigner, quoi. Enfin, c'est juste.
Oui, ils seront soignés, mais après expulsés.
Enfin, j'ai du mal à croire que celui qui voulait revoir l'AME,
Retailleau,
soigne les gens avant de les expulser. Non, je pense qu'il va juste les expulser.
Donc, y a une première annonce qui a été faite, c'est le refus par le Premier ministre qui l'a faite, l'annonce du refus que des bangas, donc les bidonvilles, soient reconstruits. Donc ça revient quand même à dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont rester sans toit. Et on va rappeler que dans les bangas, il n'y avait pas que des gens sans papier, il y avait aussi des pauvres, des gens qui ont la nationalité française, mais qui n'ont pas de thunes. Parce que je vous renvoie à l'émission qu'on a faite sur Mayotte il y a 15 jours de ça, le niveau de vie à Mayotte est très bas. Mais il est très bas parce qu'il y a plein de mesures d'exception qui font qu'on peut payer les gens moins cher, qui peuvent travailler plus, qui voilà machin. Et du coup, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de vivre ailleurs que dans des bidonvilles. Voilà.
Mais ça démontre aussi leur. Ça démontre ce qu'ils sont. Personne ne vit dans un bidonville.
Par choix et par envie.
Par choix et par plaisir, en fait. C'est-à-dire que c'est la misère qui entraîne ce genre de choses-là. Mmh. Mais ça, pour avoir moins de misère, il faudrait une meilleure répartition des richesses. Bon, là, ils ne sont pas là pour ça, quoi.
D'ailleurs, il y a un arrêté anti-vente de tôle qui a été fait aussi, mais vous savez, pour faire les toits.
Ouais, il devrait aussi interdire les clous et les vis.
Ouais, je pense que ça devrait être pas mal. Ouais. Donc, le but, c'est que les sans-papiers décident de partir d'eux-mêmes, comme le disait le Premier ministre. Alors, on va rappeler au Premier ministre. Juste un truc, c'est que les sans-papiers, souvent, ils sont arrivés avec des passeurs, donc des salopards, parce que les passeurs sont des salopards. Ils sont arrivés pas par des moyens normaux, voilà. Donc leur dire qu'il faut repartir, ok, mais ils font comment? Ils ne font pas y aller à la nage aux Comores, quoi. Mmh. Et certes, c'est majoritairement comorien, mais les Comores, c'est loin quand même, enfin, c'est pas à côté. Donc il ne faut pas y aller à la nage, quoi. Vous voyez, c'est complètement débile de dire qu'ils vont repartir. Voilà. Alors je vous rassure, Retailleau vient d'annoncer aujourd'hui qu'il y aurait des navettes qui allaient être mises en place pour aider à la mobilité de ces personnes. Moi j'appelle ça une déportation. On met les mots qu'on veut derrière.
La mobilité des personnes.
Ouais, la mobilité des personnes. Voilà. Donc si on traduit, on prive d'accès aux mesures d'urgence ces sinistrés. Il a largement été documenté que les bidonvilles sont laissés de côté par les autorités, très clairement. On empêche la reconstruction par l'arrivée de renforts policiers en interdisant la vente de tôles, sauf aux sociétés habilitées. Voilà. De tôle et de bois d'ailleurs, parce que j'ai appris qu'il y avait aussi un truc qui vient d'arriver sur le bois aussi, sur les.
Ah bah ouais.
Voilà. Et en laissant donc dans la misère totale ces humains, on espère qu'ils partiront d'eux-mêmes ou crèveront en fait, parce qu'on va se parler franchement. Parce que c'est un peu ça qu'il y a derrière. Si vous pouvez crever, ce serait bien. Hein, voilà. Je suis cynique, je ne pense pas ça, mais il faut quand même vous dire que quand on en est là, c'est qu'on se dit, ils ont pu crever. Hein. Après tout, on laisse mourir 11 000 personnes dans la Méditerranée chaque année. On n'est pas à quelques sans-papiers sur Mayotte. Hein. Voilà. Alors on ne va pas se mentir, la gestion actuelle va entraîner une surmortalité qui aurait pu être évitée. D'ailleurs, je remercie et je trouve très courageux les dirigeants de plusieurs ONG ONG dont Médecins Sans Frontières, le Secours Populaire, le Secours Islamique, le Secours Catholique, et il y en a deux autres, mais je les ai oubliés, pardon, qui ont signé une tribune pour dire que non seulement c'était dégueulasse, mais que c'était digne des pires dictatures. Et je trouve que de l'écrire comme ça, ça a au moins un sens profond et fort. Et il faut le dire, on est en train de gérer ça comme la Libye gère les flux de migrants. Voilà, c'est exactement ça en fait. Voilà. Donc cette vision totalement folle d'une sorte d'ennemi intérieur qu'il faudrait éliminer, parce que c'est ça, c'est un classique qui explique sans doute pourquoi la patronne du RN a applaudi la gestion des choses par le Premier ministre à Mayotte, et qu'elle y est là pour 5 jours. Oui, elle est à Mayotte, Madame Marine Le Pen. Voilà, pour 5 jours elle. Vous voyez le truc, l'image, vous voyez le truc qu'il y a derrière.
C'est ça, les gouvernants au pouvoir, ils restent 2 jours.
Moins de 24 heures. Voilà, pas 24 heures.
L'extrême droite reste des jours.
Et elle y est pour 5 jours. Voilà, et elle est arrivée, la première chose qu'elle a dit, c'est « Oh, il n'a pas annoncé assez de trucs. Moi, j'aurais fait mieux. » Pensez quand même donc que dans un département français, des lois d'exception sont mises en place pour maltraiter et déshumaniser celles et ceux qui ne sont pas français. Ça fait rêver Marine Le Pen. Elle se frise la moustache qu'elle n'a pas. Elle est contente. C'est-à-dire qu'on est en train de créer... sur le 101e département français. Alors on peut penser ce qu'on veut du fait que ce soit un département français ou pas. Moi, à titre personnel, j'estime que c'est une colonie qu'on a intégrée. Donc voilà, je vous donne mon point de vue. Les Mayotte auraient dû être attachées aux Comores. La France n'a rien à foutre là-bas. Voilà. Ça, une fois que ça c'est dit, ok. Mais aujourd'hui, c'est le 101e département français. Et sur ce département, on est en train de mettre en place des mesures d'exception, des mesures de tri de personnes, des mesures qui permettent d'expulser rapidement les gens. Et ça, en fait, quand c'est fait sur un département, c'est donc transposable sur tous les autres.
Ah ben, ça sert de laboratoire.
Bah oui, donc c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de créer un rêve devenu réalité pour celles qui voulaient depuis des années s'appuyer sur des lois d'exception des Outre-mer, sur le droit du sol par exemple, pour les élargir à toute la France. Voilà, elle va aller 5 jours expliquer que finalement, c'est bien, ça marche. Voilà. Bon, alors évidemment, il faudrait qu'il y ait peut-être un cyclone qui passe sur toute la France pour avoir à peu près la même chose. Ça va être compliqué. Non, mais vous voyez la logique, j'essaie de faire de l'humour noir, mais vous voyez la logique du truc. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de lui offrir sur un plateau les moyens de sa future prise en main politique en France. Alors on peut dire qu'on est quand même là dans une belle démonstration d'un accompagnement réactionnaire de la gestion des populations.
Oui.
Voilà, à minima.
Oui, oui. Le
raciste aussi, évidemment.
Oui, en même temps, ça fait quand même quelques années que ça dure. Et là, depuis la dernière dissolution, c'est vrai que le fait que le RN dirige la France ne fait plus beaucoup de doutes.
Non, pas trop.
Vu qu'ils donnent leur aval pour absolument tout. Mmh. Bon, je veux te dire, même si t'es pas au pouvoir, mais que c'est toi qui donnes l'aval des choses qui se font, c'est que tu as le pouvoir, en fait.
Mais en plus, elle a la bonne place. Je vais le dire avec mes mots, mais
oui.
Elle a la bonne place. Parce qu'en plus, elle peut dire, c'est pas moi.
Oui.
Alors que tout ce qui est fait aujourd'hui est fait avec l'aval du Rassemblement
c'est
national.
Ça.
Ouais, mais elle peut dire, c'est pas moi.
C'est
pas
exactement
au pouvoir,
ça.
Donc elle a le pouvoir en biais.
Oui, oui, oui. Ouais. Mais ça permettra à elle de pouvoir se montrer patte blanche aux prochaines élections. Enfin, si elle est pas en taule avec les millions qu'elle détourne au Parlement européen.
Mais moi, j'ai été halluciné de l'accueil qu'elle a reçu. À Mayotte, alors qui est pas surprenant parce que quand on connaît un peu les Outre-mer, on sait que le Rassemblement National fait de plus en plus de voix dans les Outre-mer, et notamment parce que il joue sur une espèce de truc qui dit que les Outre-mer sont la France sans être la France, que on a le droit à son identité. Vous voyez, en fait, il y a un discours très ambigu qui fait que ça résonne avec certaines attentes. Faut pas non plus se mentir. Et puis qu'à Mayotte, effectivement, la gestion des personnes migrantes a été extrêmement mal faite par la gauche comme par la droite, et qu'on a laissé une partie de la population mahoraise se démerder avec ce qui se passait. Ce qui ne veut pas du tout dire que je suis en train de dire que les migrants sont un problème ou que ce soit. Non, c'est juste qu'on n'a pas intégré, on n'a pas mis en place ce qu'il y avait de nécessaire. Je le redis, il manque 1200 places. Voilà. Donc on voit que c'est juste énorme à l'école. Donc c'est rien que ça. En fait, on n'a pas mis en place ce qu'il fallait. Et quand en fait on ne met pas en place ce qu'il faut, en réalité, on crée une situation qui permet de faire du tous contre tous ou du. Eux contre eux, et qui favorise l'extrême droite, qui favorise le rejet des autres, qui favorise la peur, et ça c'est aussi une volonté politique, et c'est ça qu'aujourd'hui on voit émerger. Et quand vous laissez des populations dans les Outre-mer avec des niveaux de vie qui sont jusqu'à 2 fois inférieurs, voire 3 fois dans certains territoires, à ce qui est en métropole, avec des des produits qui sont jusqu'à deux fois plus chers, donc ça veut dire que ça fait un rapport pour une fois six, quoi, qui sont deux fois plus chers à acheter, bah forcément vous créez un sentiment d'exclusion qui, dès que quelqu'un arrive et leur dit c'est pas normal, bah il est écouté. Et je veux dire, c'est terrible, mais la pauvreté a toujours été le terreau des fascismes, et on le voit aujourd'hui d'autant plus que avec Marine Le Pen qui s'est très bien malheureusement surfait sur la catastrophe. Elle.
Voilà. Oui, et puis j'avais parlé, je crois, il y a quelques mois, peut-être même en année, je crois, quand la CIMADE, en fait, qui est à Mayotte, avait été, comment on peut dire, empêchée d'agir sous la pression de Mahorais et de Mahoraises. Oui, enfin, je veux dire, c'est là aussi, c'est pas neuf, mais encore une fois, c'est quelque chose qui se développe et c'est, il y a une sorte de mainmise qui se fait petit à petit par l'extrême droite et ses idées. Parce que je veux dire, faut arrêter de croire aussi que être d'extrême droite, c'est ressembler à Marine Le Pen ou à Maréchal Le Pen. Allô, faut remettre un peu les logiciels à jour, et qu'en fait, l'extrême droite est supportée dans plein d'endroits où on pourrait se dire, bah non, qu'est-ce que c'est pas logique, non, mais la logique,
parce qu'en fait,
elle est autre.
Parce qu'on a laissé totalement des populations démunies face à un problème réel, mais qui n'est pas un problème de personne, qui est un problème de pauvreté, qu'on a laissé se démultiplier, et automatiquement, si personne n'a un contre-discours, si personne n'apporte un discours social, un discours d'intégration, un discours de mise en commun ou de choses comme ça, le discours le plus simpliste finit par rentrer dans les têtes parce que finalement elle va nous débarrasser du problème, quoi. Et c'est ça la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je le dis à ce micro, je sais qu'on a des compagnons anars sur place qui essayent de faire du boulot. J'ai vu ce qu'ils faisaient et je les remercie. Et comme d'habitude, les anars on est très peu. Voilà. Par contre, moi, j'aimerais juste savoir où elle est, la gauche française, en fait, hein. Parce que depuis le 13 décembre, je l'ai pas ni beaucoup entendu sur Mayotte, ni vu se déplacer, hein. Et à un moment donné, vous savez, les députés, ils ont le droit de se déplacer. Ils ont des frais pour ça. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de visite de la.
C'était les vacances.
Non, mais c'est ça. En fait, il arrive un moment où, c'est aussi ça qu'on paye derrière. On peut pas dire, mais elle y est. Oui. Mais vous.
Mais grave.
Et moi je sais.
Qu'est-ce qui empêche à Monsieur Mélenchon, qui adore occuper l'espace médiatique,
et qui lui n'a pas de mandat,
il n'a plus rien. Ouais, je veux dire, qu'il aille prendre quelques jours et qu'il aille aux côtés des Mahorais et Mahoraises. Et à rigueur,
il peut même aller aider dans une asso.
C'est ce que j'allais dire. Il pourra même enlever sa veste de cuir, etc. Là, un peu horrible. Et il pourra aller aider, en fait. Il pourra se retrousser les manches et bosser réellement un jour. Et en fait, ça se fait pas non plus. Parce qu'encore une fois, la gauche, de toute façon, on sait très bien. Et ici, on l'a déjà dit. Hein, enfin, nous, c'est ni Dieu ni maître. Et ça sera sûrement pas un maître qui s'appellera Méluche ou autrement. Donc, eux, de toute façon, leur seule quête en ce moment, c'est destitution de Macron et leur victoire qui a été volée. Mais en fait, donc, ce n'est que la quête du pouvoir qui les intéresse. Et le reste, ils n'en ont pas beaucoup plus à foutre que les autres politicards. C'est juste qu'ils font ça avec un sourire et des mots un peu plus gentils, quoi.
Mais par contre, je salue vraiment et les associatifs qui font un boulot de ouf, y compris des gens qui étaient en métropole, qui sont partis aider là-bas. Et je trouve vraiment, je les salue. Et je salue aussi vraiment nos compagnons, comme on dit, non alignés, non affiliés, voilà, qui qu'on dit anarchistes et libertaires, qui essayent de faire là-bas aussi des choses en autogestion, qui essaient de remettre en place des choses, qui filent des coups de main pour reconstruire, et voilà, mais on est peu. Voilà. Alors, pour ceux qui se diraient, et vous y allez pas? Oui, on va pas tous y aller non plus. Et je pense que si la causerie débarquait là-bas, ça aurait pas un gros poids. Par contre, je pense que si une partie de la gauche française se déplaçait là-bas, ou de leaders syndicaux, ça aurait une image qui serait peut-être positive et qu'il faudrait peut-être réfléchir à faire. Bon, alors, je continue, hein, quand même. On a aussi, par rapport au plan, les Mahorais, ils savent que les plans, ça marche pas, hein. Faut pas les prendre pour des idiots, hein. Depuis 2000, donc, c'est pas vieux, hein, 24 ans, c'est pas moins quand même d'un plan tous les deux ans, hein, qui est déposé pour Mayotte, et qui est oublié tranquillement, hein, après, hein. Donc c'est pas étonnant, hein, que dans ces conditions-là, et pour faire oublier le fait que l'État ne met pas un seul pilier social dans tout ça, parce que c'est ça le vrai problème, et puis aussi qu'il va aussi vendre Mayotte aux intérêts privés via des prêts garantis par l'État, parce qu'un prêt garanti par l'État, il faut que la personne elle puisse emprunter, hein, quand même, hein. Donc c'est-à-dire que c'est pas pour les pauvres, hein. Là, on est en train de vendre l'île. Il ne résoudra pas l'accès au minimum.
Ils sont en train de vendre l'île.
Ouais, enfin. Oui, c'était un on générique. Ils sont en train de vendre l'île. Il ne résoudra donc pas l'État par l'accès au minimum vital, hein, comme l'eau. Du coup, c'est pour ça que la chasse aux migrants est mise en avant pour faire écran de fumée, tout simplement. Ça permet de faire oublier un État qui ne fout rien. très clairement. Comme en métropole, hein, comme en Italie, comme en Hongrie, comme aux USA, les ultralibéraux économiques se cachent pour mieux prendre tout ce qu'ils peuvent, désignant au passage un ennemi intérieur ou selon eux d'envahissement pour mieux détourner l'attention de ceux et celles qui sont en train d'être spoliés. Tout simplement. Et le pire, c'est que ça marche. Sur la plupart des plateaux télé, radio ou lieux d'échange sur Internet, le sujet autour de Mayotte n'est pas l'incurie de l'État depuis des décennies, ni la gestion coloniale qui a été menée de ce drame, ou même avant ce drame, mais bien le fait que le drame est un peu la faute des migrants. Alors, je sais pas comment les migrants ils font pour faire venir des cyclones, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, ils savent pas faire. Vous voyez, c'est derrière que voilà. Donc, on croit quand même rêver, hein, mais on en est là. C'est-à-dire qu'on a quand même des plateaux. Alors, il y a des émissions qui n'ont pas du tout fait ça. Je vais le dire clairement. Je vais en citer deux. Une qui est C'est ce soir sur France 5, qui a fait une excellente émission sur Mayotte et justement qui a rappelé l'incurie de l'État depuis des années. Et je les salue parce que c'était un peu les seuls à avoir fait ça.
Aussi. C'est une émission de qualité sur plein d'autres débats, en fait.
Mais je l'ai trouvé très bien, cette émission, et justement, il rappelait que, on en est là parce que l'État foutait rien, en gros. Oui. Et la deuxième, parce que quand même, faut la citer sur ce sujet-là, je veux pas parler des autres, mais c'est 28 minutes sur Arte, qui a fait deux émissions spéciales où ils ont quand même rappelé que Mayotte, c'était un département qui était traité totalement différemment de toute la France, tout en étant un département. Ce qui était juste surréaliste en termes de traitement du lieu. Et que, en rappelant que, là aussi, l'État n'avait pas fait la moitié de ce qu'il devait faire. Donc, vous voyez, c'est un peu, on est très très peu, et je vais inclure la causerie du coup, on est très très peu à essayer de décortiquer les choses autrement qu'en disant, c'est parce qu'il y avait 200 000 personnes de trop, parce que c'est pas le problème en fait. Le problème, c'est qu'il y a un ouragan extrêmement, enfin un cyclone extrêmement puissant qui est tombé sur l'île et sur la région. Je le rappelle, il n'y a pas que Mayotte qui a été touchée, et que en fait rien n'avait été prévu alors que c'était prévisible que ça arrive, et que voilà, et qu'en gros on voit bien que la gestion était très mal faite et que tout était fait pour qu'on on arrive à une catastrophe telle que celle qui est vécue aujourd'hui. Parce que, oui, je le redis, donc Mayotte a subi le cyclone, mais en fait, toute la région a subi le cyclone. Et on sait que le dérèglement climatique a augmenté la puissance. Ça augmente pas les fréquences, ça augmente la puissance. Et on en est quand même à compter aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui est le plus cynique, qui mérite réellement d'être sauvé. C'est ça, en fait, qui voit, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, de faire passer une petite musique, qu'il y aurait ceux qu'on peut sauver, ceux qui méritent pas de l'être. Voilà. Mais cette petite musique, vous l'avez déjà en tête, parce que c'est exactement la même chose que les morts en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a 11 000 personnes qui meurent chaque année en Méditerranée. Aujourd'hui, on est à plus de 2 000 personnes qui meurent dans la Manche chaque année. Et en fait, on n'en parle jamais, ou quasiment jamais, comme si ces personnes méritaient de mourir ou n'avaient pas à être citées ou à exister. Voilà.
Mais on rentre dans des trucs qu'on a déjà parlé, en fait. C'est une histoire de papier. C'est-à-dire que vous avez les bons papiers. Vous êtes un humain, vous ne les avez pas. Vous n'êtes pas grand-chose si ce n'est un numéro, quoi.
Et quand on en arrive là, quand on s'habitue au point que cela ne choque plus grand monde et que les foules restent bien tranquilles de partout, c'est qu'on est déjà loin dans un monde fascisant et déshumanisé. Il faut arrêter de se mentir. Ça devrait beaucoup plus faire bouger ce qui se passe. Et en fait, non. Donc voilà. Alors oui, je vous souviens de dire, c'était la trêve des confiseurs, c'était blabla, c'était ceci, c'était cela. Ouais, sauf le 13 décembre, hein, je vous rappelle, hein. Donc entre le 13 et le 31, il y avait des jours, hein, quand même. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Bon. Donc on n'a pas...
Non, mais j'allais faire une mauvaise blague.
Donc on n'a pas quand même fini de parler de Mayotte, hein, et la dernière preuve de mépris est venue du fait que la loi spéciale pour mettre en place ce plan d'urgence qui est déjà pas très très bien achalandé, elle a été décalée d'une semaine parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Voilà. Non, en fait, je vais vous dire la vérité. C'est qu'en fait, ils voulaient faire une belle rentrée des ministres. D'ailleurs, elle a été bien filmée. On les a bien vus rentrer à pied dans l'Élysée. Et ils voulaient pas de polémique. Donc, pour pas avoir de polémique, on fait pas la loi. Comme comme ça, il y a pas de questions. C'est tellement plus pratique. Parce que vous doutez bien que si le premier conseil des ministres vous mettez la loi, le débrief qui est derrière avec les journalistes, toutes les questions allaient porter sur la loi. Et donc, il fallait éviter que ça, parce qu'il fallait faire une belle image d'unité. Donc, du coup, on a fait un truc où les questions pouvaient porter sur rien, parce que la seule chose qui s'est passée, c'est ils ont pris un verre avec le président. Voilà. Donc à croire que l'urgence n'est donc pas réelle, hein, quand on parle d'un territoire de la République, comme certains aiment bien le dire, loin de Paris. Voilà, c'est ça l'idée. Donc une fois de plus, tout notre soutien aux habitants de Mayotte et à celles et ceux qui luttent sur place et ailleurs pour que chaque humain ait la même valeur et qu'à jamais les frontières et autres différenciations débiles disparaissent, parce que c'est la seule chose qu'on peut continuer à porter. Et voilà, parce que je suis moi personnellement plus qu'halluciner de ce qui se passe sur Mayotte.
Voilà. Et c'est pour ça, vous comprenez, qu'on n'aime aucun maître qui s'appelle Méluche ou autre chose.
Ah oui, clairement.
Parce qu'en disant feu aux frontières et aux papiers, et ben en fait, on se retrouve ennemi de tout le cercle politique qui aille de l'extrême droite à une certaine extrême gauche. À une certaine gauche, plutôt. Ne le faisons pas passer pour plus qu'ils ne sont. Mais ce qui fait que c'est aussi ça le truc. Comprenez qu'en fait, quand on dit souvent... il n'y a aucune solution avec aucun politicard, c'est bien pour ce genre de points-là extrêmement
L'horreur du truc,
radicaux. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oser dire les frontières sont de la merde, et ben c'est aucun de ceux qui court après le pouvoir à l'hémicycle qui va oser le dire. Donc c'est à vous et à nous et à toutes celles et ceux qui pensent que effectivement les frontières sont un problème, les papiers sont un problème parce que il n'y a qu'une humanité à travers ce foutu globe. Et ben tant qu'on sera toujours aussi peu nombreux, ben on continuera de se faire écraser par les lois dégueulasses des États, et qu'ils soient dirigés par certains ou par d'autres, ça reste un État, ça reste autoritaire et ça reste forcément excluant pour toutes celles et ceux qui n'en sont pas.
Donc passer le mot, qu'on arrête d'être pas assez nombreux. Ouais. Parce que le but, c'est qu'on soit le plus. Ouais, c'est un peu le truc.
Ouais.
Donc voilà. Mais en tout cas, juste pour quand même fermer un peu la parenthèse, pas sur ce que tu disais, mais sur Mayotte.
Tu peux aussi. Non,
mais c'est sur Mayotte. Moi, je vous invite vraiment. Il y a quand même je vais le dire, il y a deux très bons médias qui font un boulot assez costaud sur Mayotte. Il y a Mediapart qui vraiment fait aujourd'hui un travail journalistique plutôt bon sur ce qui se passe à Mayotte et sur les dérives, et je les salue parce que j'ai pris une partie de ma chronique, pas mot à mot, hein, mais je me suis beaucoup inspiré d'eux. Et la deuxième chose, c'est Disclose qui a sorti là aussi des trucs, notamment en expliquant que c'était pas très logique, par exemple, d'aller appeler Elon Musk, ou que tiens, c'était bizarre qu'on bloque les navires qui peuvent amener de la tôle, vous voyez, par exemple, et ce qui peut quand même être utile quand c'est détruit. Voilà. Et ils ont fait aussi un article qui est très intéressant sur l'enfouissement des déchets, qui est une bêtise absolue, parce que Mayotte, c'est pas grand. Donc si vous enfouissez les déchets, vous ne faites que garder les déchets à un endroit, et finalement c'est complètement idiot. Et qu'ils disent, pourquoi est-ce qu'en fait on met pas en place un retraitement vers la métropole? On sait faire des porte-containers pour emmener des trucs qui sont faits chez Chine ou compagnie pour de la fast fashion, mais là d'un seul coup on saurait pas faire. Donc ils disent, c'est pas tellement différent, et ils ont raison. C'est-à-dire qu'en fait, même là, on va laisser les Maorais avec leur merde, pardon de le dire comme ça, mais c'est un petit peu l'idée. Et dans 20 ou 30 ans, on découvrira qu'il y a des émanations toxiques ou des choses comme ça dans les sols, parce qu'on aura fait de l'enfouissement là où il faudrait faire autre chose. Voilà.
C'est ça. Mais on retombera sur le fait que, vu que c'est un territoire très
lointain.
C'est
comme le chlordécone, quoi.
C'est exactement comme
le chlordécone.
L'état central de l'Hexagone en aura strictement rien à secouer.
À nous de ne pas en avoir rien à secouer.
C'est exactement ça.
Allez, on passe à la musique.
J'écris sur un fond d'ennui ce qu'il reste de mes souvenirs. Je vis au gré de la pluie qui brise l'écho de mes derniers rires. Douce nuit, reine de l'insomnie, donne-moi du réconfort. J'aimerais aussi oublier les crises et dormir sans effort sous les étoiles. Je me sens si mal. On s'écrira pour combler l'absence de ce qu'on ne dit pas. On s'écrira,
on s'écrira,
on s'écrira.
J'ai jamais eu la patience de me soigner quand j'y pense. Et je fais souvent preuve d'insolence si la vie rime avec prudence.
Les mots en pagaille quand l'esprit déraille. Je ne suis plus maître de moi. Les crayons s'entaillent, se greffent à mes failles. Les pages me feront roi. Sous les étoiles, je me sens si mal. On s'écrira pour combler l'absence de
s'écrira. On s'écrira des lettres de pluie. Même quand les nuages seront partis, on s'écrira pour combler l'absence de ce qu'on ne dit pas, pour ancrer le sens des mots qu'on oubliera. Pour trouver un sens, on s'écrira,
on s'écrira.
On s'écrira,
on s'écrira, on s'écrira.
Et de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et vous venez d'entendre eh ben, Nuit Incolore avec Loïc Notet, en duo donc, et avec le titre On s'écrira. Et j'ai eu la chance de voir Nuit Incolore sur scène et c'est vachement bien. J'ai eu la chance de voir Loïc Notet sur scène et c'est vachement bien. Et les deux ensemble, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, proposition du soir. Voilà.
Très bien.
Ah bah toi t'as pas aimé, j'ai bien compris, hein, c'est pas, ça fait pas stupéflip, ça fait pas le tarba, alors forcément c'est pas bien.
Bah, ça craque pas beaucoup quoi.
Bah ouais.
Ok, et ben t'as une brève je crois.
Oui, j'ai une brève qui se passe, alors que je ne dise pas de bêtises, samedi 11 janvier. Donc samedi prochain, c'est à la librairie La Griffe, et c'est une proposition de discussion autour de quelle écologie pour renverser le système de domination. Voilà, donc c'est une rencontre avec la revue Silence et les rédacteurs et rédactrices du livre Danse avec les luttes, voilà, parce que c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je suis très étonné dans la revue Silence là, mais voilà, hein, ils sont là.
Ah, en même temps, la contradiction dans nos milieux, c'est ce qui manque.
Oui,
souvent,
tout à fait. Donc,
et puis, c'est pas non plus des gens d'extrême droite, Silence.
Quoi, non, tout à fait. Je suis pas en train de dire ça dans ce sens-là.
Non, mais c'est parce que je disais que tu le disais, mais c'est juste des fois, ce qui manque, c'est peut-être qu'on se parle souvent entre nous.
Oui, c'est bien qu'on. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, voilà, donc c'est à la librairie La Griffe, c'est dans le 7. Donc je vous lis un peu le truc, c'est quelle écologie pour renverser le système de domination. C'est la question que l'on va se poser en compagnie de Lola Kéraron, et Sarah Nouvellon, ouais, ça veut dire comme ça, pardon, Nouvellon, et de David Maenda Kitoko, qui ont tous les trois participé à l'écriture du livre Danse avec les luttes. Donc c'est un livre qui essaye de balayer en fait toutes les luttes, comment on peut les... Attention pour les anti-wokistes, les intersectionnaliser, c'est-à-dire les faire se croiser tout simplement. Donc voilà, et donc du coup, c'est plutôt intéressant. Et donc c'est au 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e à partir de 15h. Et la librairie est accessible, y compris aux personnes à mobilité réduite. Voilà, ce qui est plutôt bien quand on veut parler de toutes les luttes d'émancipation. je dis ça parce que il y a pas très longtemps, je ne dirais pas qui a fait ça, mais il y a un collectif qui s'occupe de la Pride, qui a fait une soirée
à Lyon,
qui a fait une soirée où la soirée était accessible, mais pas les toilettes. Alors j'ai dit, c'est pas grave, mais c'est juste ridicule. Oui. Voilà, juste soit la soirée elle est accessible au PMR, soit elle l'est pas. Mais dire vous pouvez venir, mais vous allez
pas
aux toilettes.
Vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes.
C'est un petit peu bizarre. Voilà, j'ai juste une remarque comme ça et pas méchante, plutôt une boutade, mais pour dire que l'accessibilité, faut pas que ça devienne juste une espèce de slogan à 2 €. Il faut que ce soit réel, il faut que ce soit pour tout le monde, et donc il faut que les toilettes soient accessibles. C'est aussi bête que ça. Voilà. Oui. Et je tiens à dire que Canu n'est pas bien accessible et qu'il faudra qu'un jour on réfléchisse à ça. Mais ça, on en reparlera, mais ça, c'est entre nous.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mais oui. Ok. On a tout dit. Oui, on a tout dit. Avant de se quitter.
Tu rappelles comment nous joindre?
Tout à fait, c'est ce que j'allais faire. Donc oui, on va se quitter un peu avant l'heure. Soyez patrice, c'est pas grave. On se retrouvera la semaine prochaine, certainement. Donc si vous voulez nous contacter, c'est donc par mail. C'est lacausericanu@gmail.com. lacausericanu@gmail.com.
Oui, c'est ça.
Ok. Vous retrouverez évidemment cette 545e émission sur le blog de l'émission. Hein, soit vous tapez dans votre petit moteur de recherche blogs, Radio Canu, la causerie, vous tomberez sur nous. Sinon, c'est à blogs.radiocanu.org/la causerie. Vous nous retrouvez évidemment aussi sur tout plein d'agrigueurs. de podcasts ou d'écoute musique, etc. On ne va pas les citer évidemment, mais vous les connaissez. Pareil, vous tapez La Causerie Radio Canu et vous tomberez sur nous avec notre petit visuel qui, normalement, si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous devriez à peu près le connaître. Et on a aussi un espace sur Face de Plouc, ce réseau social de vieux et de capitalo. Alors, on n'est pas obligé d'être les deux, hein, mais si on est vieux, on est souvent dessus. Je parle pour moi. Donc, c'est pareil, hein, c'est La Causerie Radio Canu. Encore une fois, on invite à toutes celles et ceux si vous voulez donner votre avis, si vous voulez compléter, si vous voulez amener des points de désaccord, etc.
Ou même d'accord.
Ou même d'accord, hein, oui, évidemment. Mais souvent, les gens ont plus facilement besoin d'exprimer les désaccords. Enfin bref, c'est donc, on vous invite vraiment à aller sur le blog, parce que bah, le blog, c'est vraiment, ça s'inscrit sur le long terme, et même si quelqu'un, deux ans après, a envie de vous répondre, eh ben, ça sera toujours faisable, alors que sur les espaces privés, tels Facebook ou autres, bah, c'est plus compliqué. Et donc voilà, et merci à celles et ceux aussi qui partagent les podcasts toutes les semaines sur les différents réseaux, etc. Merci beaucoup.
Moi, comme tu as dit, de musique, etc., ça m'a fait penser à musique, etc. L'excellente émission qui est le matin de 10h à midi. Mais juste, c'est
le
pour
dimanche.
Le dimanche matin, pardon, de 10h à midi sur Radio Canu. C'est juste parce qu'ils ont reçu un groupe ce matin que j'aime beaucoup qui s'appelle Acid Winter. Et voilà, je voulais juste te dire que bah, écoutez l'émission de Guillaume et écoutez l'émission avec Acid Winter.
Voilà, oui, très bien.
Et bien,
très bien. Et non, mince, je sais plus quand c'est. On avait diffusé la semaine dernière dans les coups de cœur de 2024, on avait diffusé Ciel.
Ouais.
Ben,
cherche sur les réseaux de Ciel.
Oui, mais... non, mais c'est parce que Ciel sera invité dans l'émission Transculture. Qui est une émission avant qui était, je crois, sur Radio Pluriel à Saint-Priest, qui aujourd'hui est sur Radio Canu. Et les animatrices, ou l'animatrice d'ailleurs seulement, recevra Ciel au mois de janvier. Je crois que c'est le 6. Non, c'est pas le 6, c'est pas possible. Mais en tout cas, je crois que c'est la semaine prochaine.
Le 17.
Ah non, bah, j'ai encore du temps. Bah, je vous le redirai la semaine prochaine. Hein. Mais voilà, si vous voulez découvrir un peu plus longuement cet artiste qu'on a pu diffuser la semaine dernière, et ben voilà, rendez-vous sera donc sur l'émission Transculture. Mmh. Voilà.
Si elle veut revenir dans La Causerie, elle a le droit aussi. Hein, moi,
évidemment. Et ben voilà, on se quitte en musique encore une fois.
Oui, alors dans la série, tiens, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Attends, juste, je reprends vite fait. Alors, on ne vous a pas souhaité bonne année.
Ah oui,
ça, tout ça. Alors, on vous la souhaite à l'échelle individuelle, évidemment, très bonne et la plus joyeuse et la plus belle possible. Et en même temps, on sait aussi que si on a les yeux un peu ouverts, on se rend bien compte que le monde de merde dans lequel on vit porte pas forcément à un truc où on se dit waouh, cette année, elle va être encore meilleure que l'année dernière. Parce qu'il y a des chances qu'elle ne le soit pas. On a évidemment une pensée pour vous toutes et tous. On vous souhaite encore une fois, évidemment, à l'échelle individuelle et collective, plein de choses formidables. Mais on ne va pas non plus se mentir et être juste dans un anonnement. Ça se dit ça ? Dans un anonnement classique en début d'année, parce que...
Est-ce qu'en ce moment, c'est dur ?
Ouais, on va dire ça.
Hein ? Bah, c'est vrai.
Bah oui.
Non, je ne vais pas dire le contraire.
C'est exactement ça. Et donc, pardon, t'étais le titre.
Bah oui, j'allais dire, vous savez, des fois on découvre des trucs, et là, j'ai découvert un gars, mais qui est improbable, qui s'appelle Jimmy Sax. Alors oui, Sax pour saxophone. Et son titre, c'est You. Voilà. Bah, je vous laisse écouter. Moi, j'aime bien. je regarde mes deux comparses de La Causerie, je suis pas sûr qu'ils aiment bien eux, mais comme ce soir il y a que moi qui cause,
bah oui,
j'ai
c'est
fait
toi qui
toute
fait
la musique, oui. Donc voilà, et donc les auditeurs et auditrices, ils se battent vivement que les autres parlent.
Je pense que c'est le fond de leur pensée, ouais. En tout cas, c'est le nôtre.
Allez, bah, on se quitte avec Jimmy Sax et You.
Allez, voilà. On vous souhaite une bonne semaine. Bon courage pour celles et ceux qui reprennent, hein, parce qu'en France, on vit au rythme des vacances scolaires. Voilà. Et puis nous, on vous donne rendez-vous normalement dimanche prochain, de 22h à 23h sur antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien.
Des bisous.
Ciao.
Ciao.
Thank you.